France Culture, il est 11h, tout de suite, Émilie Oubry.
Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Dans la seconde partie de cette émission, nous serons avec l'économiste Daniel Cohen et la psychanalyste Elisabeth Roudinesco pour revenir sur l'infiniment complexe affaire libyenne de Nicolas Sarkozy. Mais pour l'heure, nous sommes en compagnie de l'ancien conseiller de l'Élysée Gaspard Ganzer, du politologue Dominique Régnier et du journaliste du Monde Gérard Courtois. C'était vendredi dans la matinée, le son caractéristique du smartphone lorsque le journal Le Monde nous alerte d'un événement d'actualité. L'alerte que chacun redoutait de voir réapparaître sur l'écran. Celle nous informant d'une fusillade en cours, non pas à l'autre bout du monde, nous avons tous des inconscients ethnocentrés, mais dans l'hexagone. Et puis l'enchaînement des faits, la voiture braquée, la prise d'otage dans le supermarché de la petite commune rurale de Trèbes, les forces spéciales intervenant sur place, 4 morts pour finir, puis celle du terroriste, et la mécanique politico-médiatique hier familière, mais qu'on avait tant voulu oublier se remettant en place. Les éditions spéciales sur les chaînes d'infos ne nous épargnant aucun détail et aucune expertise. Le bandeau bien visible, l'État islamique revendique. Le grand retour des conférences de presse du procureur François Morlins, nous donnant le profil du fichier S Radouane Lagdim. Avait aussi surgi la figure héroïque du lieutenant-colonel Beltrame, qui avait pris la place d'une otage et en était mort. Nous rappelant que le martyr est celui qui meurt en sauvant des vies et pas en donnant la mort. Bref, un week-end où les Français ne pouvaient plus feindre d'ignorer que certaines âmes errantes du territoire continuaient de trouver dans la folie djihadiste une réponse meurtrière, comme un réveil déplaisant nous rappelant que la fin du califat Daesh en Irak et en Syrie n'avait évidemment pas tout résolu. Un événement qui ouvrait un boulevard à ceux qui, comme Marine Le Pen, pouvaient redire le manque de fermeté du pouvoir, rappelant la proposition du FN d'expulser immédiatement les fichiers S. Emmanuel Macron, lui, avait attendu l'après-midi pour réagir de Bruxelles aux côtés d'Angela Merkel, avant de rentrer à Paris et d'autoriser pour la première fois les caméras à le suivre dans la cellule de crise du ministère de l'Intérieur. Image inédite de la task force antiterroriste d'un président veillant aussi soigneusement à la sobriété des réactions et des mots, ne pas faire replonger la France dans la psychose mortifère, insister sur une menace terroriste toujours présente mais de nature différente.
Sur la menace terroriste, nous n'avons jamais fait mystère et le ministre de l'Intérieur l'avait rappelé il y a quelques semaines du fait que cette menace demeure élevée. Et elle demeure élevée essentiellement parce que nous avons depuis plusieurs mois une menace qu'on appelle endogène. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'individus qui se sont radicalisés eux-mêmes, qui ont des profils psychiatriques variés. Je reste prudent parce que l'enquête commence. Nous ne sommes plus dans une situation comme il y a 2 ou 3 ans où nous étions face à des offensives menées depuis la zone irako-syrienne sur notre territoire. Est construite sur la zone irako-syrienne. C'est la différence entre le terrorisme que nous avions naguère et la forme de terrorisme actuel. Et donc il y a aujourd'hui des individus dangereux qui sont suivis de très près, sur lesquels nous avons des nombreuses procédures. Maintenant, avant de tirer toute conclusion de ce qui vient de se passer, je crois qu'il faut avoir beaucoup de prudence et analyser les faits.
Gérard Courtois, est-ce que la réponse Macron à l'attentat a ses spécificités dans ce bon dosage présidentiel à trouver entre ne pas en faire trop, ne pas en faire assez ?
Vous rappeliez que, il y a, au fond, après le traumatisme de 2015-2016, Charlie, Bataclan, Nice, etc., il y avait une tentation ou un espoir que cette menace s'estompait. Puis elle ressurgit. Alors, elle ressurgit après l'attentat de Carcassonne, mais on a tendance à oublier le terrorisme à bas bruit de l'année écoulée.
Il y a eu Marseille.
Non, il y a eu Marseille, 2 morts. Il y a eu les Champs-Élysées, 1 policier tué. Il y a eu 4 attaques contre des forces de police, à Notre-Dame, à Orly, au Carrousel du Louvre, à Levallois-Perret, plus une douzaine, quinzaine les chiffres sont un tout petit peu flous, de projets d'attentats déjoués par les forces de police, de sécurité, antiterroristes. Donc, il y a cette espèce mais on avait effectivement tendance ou envie d'occulter, au fond,
c'est une sorte de mécanique de l'autruche. Français.
Non, c'est pas l'autruche, c'est l'instinct de vie contre l'instinct de mort. Et après encore une fois, ce qu'a été le traumatisme des attentats de 2015-2016. Alors, j'ai eu le sentiment que le président de la République a au fond et tâter le terrain un petit peu, essayer de sentir comment l'opinion et les Français réagissaient à cette tuerie de Carcassonne et de Trèbes, pour ne pas trop en faire, ne pas surréagir. Et au fond, il n'est pas le seul. Quand on regarde les journaux, quand on regarde les réactions des médias au fil de la journée et le lendemain, on est dans cette espèce de mesure. Entre rendre compte, expliquer, essayer d'expliquer, essayer de comprendre la mécanique du djihadisme, et Macron l'a bien défini, je crois. On est dans un terrorisme endogène, dans un terrorisme qui n'est plus importé de l'extérieur, mais qui s'enracine dans des réalités françaises, humaines, sociales, urbaines, territoriales, etc. Et on voit bien que cette Occitanie est un foyer où s'est enraciné, se sont enracinés des mécanismes de radicalisation. Donc et puis on voit. C'était très symptomatique la manière dont le chef de l'État a progressivement pris la mesure de l'émotion liée à la mort du colonel de gendarmerie pour progressivement aller vers un hommage national. Et voilà, j'ai l'impression qu'au fond, il a été très en résonance avec la manière dont on a tous réagi, au fond.
Gaspard Ganzer, évidemment, on se demande comment vous, tout particulièrement, vous avez vécu ces événements vendredi. Vous, qui, faut-il le rappeler, avez été le conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée, à ses côtés, au pire moment, au moment, bien sûr, des attentats, notamment du 13 novembre. Alors, comment vous avez jugé la geste présidentielle version Macron vendredi ?
Alors, tout d'abord, je trouve que le président de la République actuel, Emmanuel Macron et son équipe, ont très bien réagi, même si, comme le dit fort justement Gérard Courtois, ils ont adapté leur réponse d'heure en heure. Je pense qu'ils ont une réponse extrêmement juste et adaptée. Je le dis d'autant plus facilement que je sais que c'est très difficile de réagir dans ce genre de circonstances, parce qu'on a toujours peur de dire le mot de travers, de ne pas prendre la bonne décision, de ne pas renvoyer la bonne image. Parce que dans une réponse à un acte terroriste, il y a deux choses. Il y a évidemment l'action des forces de police, de gendarmerie, qui est de renseignement, qui est essentielle. Mais on va dire la politique, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la capacité à rassembler les Français, à leur adresser les bons messages, est essentielle. Vous parliez tout à l'heure des attentats de novembre. Moi, je pense à tous les attentats tous les jours, à titre personnel, parce qu'on en a eu évidemment beaucoup. Il y a eu un nombre de morts incalculable. Et je ne fais aucune hiérarchie entre eux, mais c'est vrai que ceux de novembre qui ont lieu à Saint-Denis 2015, qui ont lieu à Saint-Denis et à Paris, ont été particulièrement traumatisants. Pourquoi ? Peut-être à titre personnel, parce que je suis parisien et que c'était à côté de chez moi, et que je connaissais beaucoup de gens qui auraient pu y être ou qui étaient proches des endroits où Daesh a attaqué. Mais surtout parce qu'après cela, on a vraiment senti que le pays était proche du délitement, de l'explosion. On a reçu un nombre de messages de haine absolument inimaginables contre le gouvernement, contre le président, mais ça c'est pas le plus grave, mais surtout contre les autres, d'autres Français. Et donc à ce moment-là, on a vraiment cherché à avoir les gestes les plus rassurants, les paroles les plus rassurantes. Et là, je trouve qu'Emmanuel Macron, à une autre échelle, parce que on est dans un contexte différent, la menace terroriste elle-même évolue, même si elle est toujours présente, a eu la bonne réponse. Et je pense qu'il va savoir, encore dans les prochains jours, rendre hommage à ce colonel de gendarmerie qui a fait preuve d'un courage exceptionnel, qui n'est pas la première personne des forces de l'ordre à perdre sa vie dans ce contexte-là. Hein. Gérard Courtois a parlé tout à l'heure de Xavier Jugelet, mais moi j'ai pensé immédiatement à Ahmed Merabé, Clarissa Jean-Philippe, Franck Brun-Solaro, Jessica Schneider, Jean-Baptiste Salvin, tous ces gens qui sont morts parce qu'ils étaient policiers ou gendarmes, parce qu'ils avaient décidé de donner leur vie pour protéger celle des Français. Et j'espère, et j'en suis sûr que ça sera le cas, que quand le président Macron rendra hommage de la plus belle des manières à ce colonel de gendarmerie, à M. Beltrame, il pensera aussi à tous ceux qui, dans l'exercice de leur fonction, ou parce qu'ils étaient policiers, ont été tués.
Dominique Régnier, est-ce que vous avez vu dans la façon qu'a eu de réagir Emmanuel Macron une volonté aussi de se différencier de l'ère d'avant, l'ère de François Hollande, mais au-delà de cette période en effet totalement traumatisante pour les Français, de ne pas retomber dans cette psychose-là? Alors évidemment, en parlant d'une menace qui avait évolué, une menace différente, une menace endogène, en parlant du profil psychiatrique de ceux qui aujourd'hui commettent des attentats, comme pour passer à autre chose, marquer la différence, le distinguo.
En tout cas, il y a des discours qu'on peut plus tenir après un drame pareil, qui parce que les séquences sont pas les mêmes, parce que des choses ont déjà été dites. Les redire ressemblerait à une forme d'impuissance qui pourrait d'ailleurs même exaspérer. Donc il est nécessaire de construire un discours qui se déroule, dit autre chose. Et dans ce que nous avons entendu, il y a des explications qui sont intéressantes à entendre intellectuellement. On comprend la différence entre un terrorisme qui est imaginé, monté depuis l'extérieur, et quel territoire, hein, l'Irak, la Syrie, ou bien un terrorisme endogène. C'est vrai que ça nous éclaire, on comprend un peu mieux et c'est essentiel. Ensuite, il y a, je pense, deux registres de réaction. Ce qu'a dit le président est, me semble-t-il, approprié. Il le sait lui-même, ça ne préjuge pas du travail qui va avoir lieu dans l'opinion. Et malheureusement, les forces qui sont à l'œuvre dans l'opinion et qui sont orientées dans le même sens depuis pas mal d'années vont se trouver renforcées. D'une certaine manière, la forme du débat qui va s'installer, on la voit bien, hein, c'est à nouveau une grande question sur la capacité à faire communauté. Et la polarisation extrême entre le sacrifice du lieutenant colonel Arnaud Beltrame et le comportement du terroriste, c'est une polarisation qui vient presque comme ça montrer de façon très ostentatoire que décidément dans cette communauté nationale il y a deux catégories très opposées, comme si nous avions là une espèce de démonstration presque scientifique de l'incompatibilité des types de culture au sein de la société. C'est ça qui va être compliqué. Mais c'est aussi, je pense, ce qui a beaucoup pesé dans la manière, je suppose, hein, de réagir de la part du président, dans l'esprit des Français et aussi des journalistes, comme vous l'avez dit, Émilie Aubry, parce qu'il s'agit bien, là, et c'est très particulier, on ne va pas faire de classement, de hiérarchie, mais le geste qui a été accompli par le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, et chacun le sait, est un geste très singulier, hein, puisqu'il prend la place du otage et il en meurt.
Oui.
Et
donc le philosophe Raphaël Antoine, que je citais, sans le citer dans ce chapeau, a rappelé que c'était là la vraie définition du martyr.
Oui, c'est quelque chose de très pur, de très net, de très, bien sûr, immensément beau et respectable, mais qui nous fait tous réfléchir, qui nous émeut tous, et qui donc, du coup, donne à tout ça une charge affective très forte, qui pour le moment est plutôt une charge positive. Mais vous savez que ces charges affectives, elles s'inversent assez vite. Elles peuvent devenir des charges affectives négatives.
Valoriser le courage et la bravoure plutôt que de retomber dans les valeurs mortifères ou les valeurs, tout simplement l'aspect mortifère du djihadisme. Il n'empêche que la politique reprend comme toujours ses droits. Je ne sais pas comment vous avez regardé la façon d'ailleurs dont tout cela a été récupéré par le Front National. Je citais Marine Le Pen tout à l'heure, mais également par Nicolas Dupont-Aignan qui a dit sur Twitter, certes, on ne peut pas éviter tous les attentats, mais fait-on vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir les éviter? Matignon d'ailleurs très vite a réagi, hein, a dit placer le débat sur ce terrain-là, c'est plus que du mauvais goût, c'est du total cynisme. Est-ce que vous avez vu, Gérard Courtois, la politique reprendre ses droits, comme toujours, après cet attentat-là?
Alors, je l'ai vu reprendre ses droits à l'extrême droite, ou à la droite extrême, Le Pen, Philippot, Dupont-Aignan. J'ai trouvé la réaction, jusqu'à présent en tout cas, des républicains, pour de la droite dite républicaine, ou qui s'appelle républicaine, plus mesurée qu'elle n'avait été dans d'autres circonstances, notamment après Nice, plus prudente. Et c'est vrai que la réaction de Marine Le Pen ou de Philippot était, à mes yeux, proprement indécente. Proprement indécente. Enfin, je veux dire, faire comme si depuis 3 ans, depuis les attentats de Charlie et de l'hypercachère, il ne s'était rien fait. en matière d'antiterrorisme. Je trouve ça stupide, inexact, et je disais indécent parce que c'est supposé que tout ça se fait d'un claquement de doigts. Or, quand on a, il y avait un renforcement tout à fait sérieux des moyens, des dispositifs antiterroristes depuis 3 ans. Et ça, c'est pas Macron, c'est l'équipe Hollande, Cazeneuve, Valls. Prolongé par l'actuel gouvernement, il y a 20 000 personnes qui sont fichées dans ce fichier des... j'oublie toujours le... Mais il faut le dire parce qu'on dit le FSPRT. Alors, fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. On a le sens des sigles en France. Hein. Mais 20 000 inscrits. Sur ces 20 000 inscrits, grosso modo, il y en a la moitié qui sont considérés comme potentiellement plus dangereux et suivi plus étroitement, comme l'avait été d'ailleurs le terroriste de Carcassonne. 11 000 sensibles. Bon, où est la frontière entre la participation à des forums salafistes, la radicalisation, le passage à l'acte terroriste? Moi, je veux bien que on ait des solutions toutes faites qui consistent à dire ce monsieur est fiché S, il faut le renvoyer. Où ça? Le renvoyer où ça? Ce terroriste avait la nationalité française depuis 15 ans. Alors on en fait quoi aux yeux de Madame Le Pen ou aux yeux de Monsieur Philippot? Donc, je pense qu'il ne faut pas faire comme si on ne faisait rien, parce qu'on fait beaucoup. Et le nombre d'attentats qui ont été, ou de projets qui ont été déjoués depuis 18 mois, en témoigne. Mais faire comme si les choses étaient écrites entre un glissement vers une pratique religieuse rigoriste, puis une participation à des réseaux sociaux dangereux, puis un acte terroriste, c'est juste ridicule.
Alors, ce glissement, il existe et il a d'autant plus existé particulièrement cette semaine aussi chez certains intellectuels. Il ne vous a sans doute pas échappé la tribune des 100 intellectuels dont on reparle ce week-end Le Figaro. Pascal Bruckner qui est l'un des signataires avec d'autres, hein, avec Alain Finkielkraut, avec Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner, Luc Ferry, Yann Kefelec aussi je crois, Sylvain Tesson, Elisabeth Lévy, Pierre Nora. Pascal Bruckner qui redit ce week-end dans Le Figaro que le terrorisme et l'intégrisme sont des frères jumeaux qui s'épaulent et agissent par des moyens différents. Dans ce texte signé, je le rappelle, par une centaine d'intellectuels, il y avait l'idée de mettre en garde contre le séparatisme islamiste, nouveau totalitarisme, ségrégationnisme pour faire sécession avec le reste de la communauté nationale. Dominique Régnier, est-ce que vous avez le sentiment que le président Macron, qui voulait éviter ces sujets-là, ou en tout cas donner le sentiment de vouloir les éviter ou les contourner, va là devoir les regarder de façon très frontale?
Oui, Mohamed Louizi a signé ce manifeste aussi, et quelques autres intellectuels. Je le dis parce que dire qu'il n'y a pas de relation entre le terrorisme que nous vivons et l'islam, c'est, pour ceux qui entendraient ça, ce serait une espèce d'aberration. Il y a une relation évidente, elle est compliquée, mais elle est évidente. Et il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme. Moi, je considère qu'on doit savoir distinguer les deux. L'islamisme est une idéologie, un projet politique qui cherche à accomplir une conquête du pouvoir pour déployer un programme. Ça existe, c'est une réalité. L'islam est une religion avec sa dimension spirituelle qui est partagée par beaucoup de nos compatriotes et très paisiblement. Mais il y a cette espèce de réalité là qui est très redoutable. Et au fond, vous voyez, dans les images qui vont préoccuper les Français que nous avons vus hier, il y a celle de vos confrères journalistes agressés parce qu'ils allaient enquêter dans la cité du terroriste par des jeunes qui avaient manifesté leur solidarité avec le terroriste. Et au fond, dans ce fameux fichier S, on se demande qui n'y est pas. Est-ce qu'il faudrait aussi y inscrire ces jeunes gens? Ce que je ne pense pas, évidemment. Hein. Mais comment peut-on, à un moment donné, savoir quelle est l'importance de la menace? Est-ce que c'est marginal? Est-ce que c'est plus que cela? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça se réduit? Il y a cette question-là. On est devant un sujet qui a à voir avec la version terroriste que l'on a vue hier. Et d'une manière générale, il faut trouver un espace en Europe et en France pour l'islam, qui, avec les musulmans, c'est impossible de le faire sans les musulmans, ce ne serait pas juste et ce ne serait pas faisable. Avec les musulmans, il faut renvoyer l'islamisme dans des marges encore plus étroites. Et ça, c'est une grande politique du fait religieux. Beaucoup de musulmans le souhaitent, ils travaillent, hein, beaucoup ils travaillent. Le travail que fait Rachid Benzine est absolument remarquable. Enfin, je le cite parce que il est très actif et très créatif et que ce qu'il fait est magnifiquement utile. On pourrait en citer heureusement beaucoup d'autres. Mais là, il y a quelque chose à prendre comme un nouveau sujet, sans doute, qui aujourd'hui relève de la politique publique. C'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas bien en France si on peut, en tant qu'État, gérer le fait religieux. On a toujours peur de revenir sur la loi de 1905 et d'ouvrir cette boîte de Pandore qui nous effraie. Mais pourtant, il me semble qu'il le faut. Et je crois que là-dessus, le président Emmanuel Macron, par génération, par culture, par réflexion, a une position qui le spécifie par rapport à ses prédécesseurs. C'est normal, c'est aussi des effets de génération et de culture. Et qu'il est sans doute, me semble-t-il, par quelques signaux qu'il a envoyés, disposé à réfléchir en ce sens, et ce sera nécessaire.
Est-ce que ce sera, Gaspard Ganzer, l'une des conséquences de cet attentat sur le début du quinquennat Macron, c'est-à-dire l'obligation d'aller plus vite, d'avancer plus vite sur les grands chantiers de la déradicalisation et aussi de l'organisation de l'islam de France, ou réorganisation ?
C'est vrai qu'il y a eu un paradoxe dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est que alors que pendant près de la moitié du quinquennat de François Hollande, le débat politique avait été focalisé sur la question de l'identité, de la laïcité, de la lutte contre le terrorisme, qui sont des sujets différents, mais qui ramenaient parfois des questions difficiles pour les Français, et qui étaient totalement polarisées par le Front National et la droite extrême, Emmanuel Macron a été élu sans finalement vraiment aborder ces sujets, même s'ils étaient, mentionnés. Pendant les premiers mois, il les a non pas esquivés, mais en tout cas, il ne les a pas mis sur le dessus de la pile. Et on sait bien que là, il va devoir répondre avec les outils de la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas évidemment de refaire des lois, parce que là, je pense que ça serait évidemment catastrophique de faire la 279e loi sur la lutte contre le terrorisme, mais au contraire, toujours de mieux mobiliser les moyens pour s'adapter aux menaces, les moyens de la police, du renseignement, mais aussi les moyens qu'on utilise pour la déradicalisation. Moi, il y a un sujet qui m'inquiète toujours, c'est comment gérer les gens qui reviennent de Syrie, comment gérer les gens qui sont en prison aujourd'hui, qui sortiront un jour, comment éviter la surradicalisation en prison. On n'a pas les bonnes réponses encore aujourd'hui à ces questions et il faudra les trouver. Et puis après, il y a un autre sujet que moi je ne confonds pas, qui est la question de la laïcité, la place de l'islam dans la République. Et là, je pense qu'il faut vraiment manier ce sujet avec beaucoup de précaution, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège tendu par Daesh, parce que c'est justement ce que cherche Daesh, c'est faire dresser une partie de la communauté nationale contre les musulmans. Donc il faut évidemment éviter ça, et il ne faut pas confondre le terrorisme islamiste avec ce qui est la pratique de la religion musulmane. Et je pense que pour le faire, il faut l'aborder avec des pincettes, avec beaucoup de réflexion et d'attention, mais il faut aussi utiliser les bons mots. Et une fois n'est pas coutume, je vais rendre hommage à François Hollande, qui l'avait fort bien fait dans un discours en hommage aux trois policiers qui étaient morts pendant les attentats de Charlie Hebdo, l'hypercacher. Et à un moment, il avait rendu hommage à Ahmed Merabé, en rappelant que Ahmed Merabé, français de confession musulmane, savait mieux que quiconque que le terrorisme islamiste tue les musulmans. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. En Irak, en Syrie, en France, en Europe, à Nice, à Paris, à Saint-Denis, ce sont aussi des musulmans qui ont été visés. Et donc, en luttant contre le terrorisme, en réfléchissant de façon intelligente à toutes ces questions, on protège toute la communauté nationale, quelle que soit la religion des personnes.
Pour conclure sur cette première partie, Gérard Courtois et les autres, sur la météo globale de ce début de quinquennat, qu'est-ce qu'il change cet attentat ? Est-ce qu'il interrompt l'idée de ce jeune président chanceux qui pouvait avancer sans obstacle sur le chemin parfaitement balisé de ses réformes ? Est-ce qu'il interrompt, perturbe cette météo-là ?
Je ne crois pas qu'il l'interrompe. En revanche, il fournit... hélas, si je puis dire, la démonstration de ce que le président de la République, comment il réagit, comment il se comporte, comment il répond à une situation de crise, qui jusqu'à présent ne s'était pas produit. Je pense qu'on ne peut pas comparer l'agression des deux jeunes femmes à la gare Saint-Charles avec ce qui s'est passé là, y compris à cause de l'acte du colonel Beltrame, qui lui donne une espèce de résonance très forte. Et donc, on ne savait pas jusqu'à présent comment Emmanuel Macron réagirait dans ce genre de situation. C'était pour moi un point d'interrogation. Il n'avait pas été confronté à une crise de cette nature-là. Il l'est. Je pense que c'est ça qui est instructif sur la manière dont ce quinquennat s'engage. Il avait au fond, effectivement, jusqu'à présent, les portes s'étaient ouvertes devant lui. Là, il est confronté à une réalité plus violente et je pense qu'il fait la démonstration qu'il a les bons réflexes.
Dominique René.
Il y a un point clé, je pense, on sait tous quelles sont les mauvaises réponses. Enfin, on entend bien, tout à l'heure, Gérard Courtois le disait, ce que disait Marine Le Pen, ça correspond à rien, ce ne sont pas des réalités. Mais ce sont des réponses. Et il est absolument essentiel de construire en face des réponses politiques qui donnent le sentiment que nous pouvons faire quelque chose, que nous allons le faire et qu'ainsi nous répondrons aux inquiétudes et aux attentes. Et c'est là, je pense, que se situe la position du président Emmanuel Macron. S'il construit à partir de ce drame une réponse, qui, même si elle prend du temps à se mettre en place, mais si on a le sentiment qu'une réponse est construite et qu'on va avancer, je crois que là, quelque chose d'important se sera passé. Si à l'inverse, on n'y parvient pas, les mauvaises réponses, même si elles sont très très mauvaises, quand elles sont les seules, finissent par devenir très tentantes.
Pour terminer sur cette première partie, Gaspard Ganzer, j'ai relu hier soir La politique est un sport de combat, ce livre que vous avez commis, publié chez Fayard, où vous racontiez votre quinquennat Hollande vécu à l'intérieur de l'Élysée. J'ai relu ce que vous aviez écrit au soir du 13 novembre. Vous racontez comment vous avez conseillé au président d'aller le plus vite possible parler aux Français. Vous lui avez dit, pour qualifier ce qui nous arrive ce soir, va leur dire simplement ce que tu as sur le cœur. Les meilleurs mots seront ceux qui te viendront des tripes, c'est-à-dire assumer son émotion présidentielle. On n'a pas du tout le sentiment d'avoir vu un président Macron dans l'émotion ces derniers jours.
Enfin, je pense qu'on n'était pas dans la même situation déjà. Je pense qu'en plus Emmanuel Macron avait à cœur quand même de ne pas se tromper de mots. Et il était dans une incroyable maîtrise et c'est ce qu'il fallait, je pense, à ce moment-là. Ça n'empêche pas que, comme tout le monde, il est sensible et j'imagine qu'il a été très touché par tout ce qui s'est passé.
Gérard Courtois.
Je suis d'accord, les deux situations ne sont pas comparables. Moi, ce qui m'avait frappé le soir du Bataclan, c'est pour la première fois François Hollande dans une élocution, une allure et presque une présence physique qui témoignait d'un traumatisme. C'était la première fois, et chez un homme aussi... imperméable à l'adversité, c'était très, très impressionnant presque.
L'attentat, il nous dit toujours quelque chose du président, Dominique René.
Oui, et à travers le président de nous tous, il me semble qu'il y a une espèce de processus que je qualifierais de réarmement psychologique qui saisit ce pays, qui n'avait plus l'habitude de drames de violence politique. C'est l'aspect, je pense, peut-être sur lequel aussi il faut prendre appui. Nous avons raison de retrouver des forces que nous n'avions pas eu l'habitude de mobiliser.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
Merci beaucoup messieurs. À présent avec la psychanalyste Elisabeth Roudinesco, l'économiste Daniel Cohen et vous Gérard Courtois et Dominique Régnier. On va revenir sur l'autre grande actualité de la semaine. France-Libye, Sarkozy-Kadhafi. Dans cette histoire folle, il y avait les soupçons mais d'abord il y avait les faits. Une relation ancienne et avérée entre deux pays. Un dictateur libyen mis au ban de la communauté internationale pour financement du terrorisme mondial. Remis dans le jeu, d'abord sous Mitterrand, puis sous Jacques Chirac et enfin Nicolas Sarkozy, lequel l'avait reçu en grande pompe à Paris en décembre 2007, avant de le lâcher au moment des printemps arabes avec l'intervention militaire en Libye en 2011. Et puis il y avait les soupçons. À partir de 2012, lorsque Mediapart avait révélé une note secrète datée de décembre 2006, signée par Moussa Koussa, chef des services extérieurs libyens, actant le déblocage de 50 millions d'euros destinés à la première campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et puis en novembre 2016, en pleine primaire de la droite et du centre, où le même Sarkozy tentait un comeback, l'affairiste Ziad Takieddine prétendait avoir remis
remis personnellement au candidat 1,5 million d'euros en cash début 2007. Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie, avait dit au juge l'ancien président, placé en garde à vue mardi, puis mis en examen mercredi, avant d'aller jeudi dans le 20h de TF1 et d'accorder une interview au journal du dimanche. En attendant de nouveau, la politique à son plus haut niveau se voyait renvoyée à la rubrique « affaires ». Le spectre d'une affaire d'État avait même titré cette semaine Le Monde.
On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait.
Qu'est-ce qui pouvait bien justifier la garde à vue? Mais peu importe. Les policiers ont fait leur travail en professionnel et je n'ai rien à dire là-dessus. Après tout, je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus.
Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie.
J'ai donc répondu pendant près de 2 jours à des questions qui m'ont été posées, sans être jamais à aucun moment en difficulté, aucun élément nouveau par rapport aux calomnies qui courent certaines rédactions n'a été produit. Aucun.
Ça me prendra 1 an, 2 ans. 10 ans. Mais je pourfendrai cette bande.
Gérard Courtois, on est devant un dossier d'une lourdeur et d'une gravité, d'une complexité complètement inouïe dans cette histoire.
Oui, on est. Si toutefois les juges poursuivent leur enquête et débouche sur non seulement une mise en examen, mais une mise en cause beaucoup plus précise de Nicolas Sarkozy, on est dans une affaire sans précédent. Ce qui est le plus spectaculaire, Nicolas Sarkozy est déjà mis en examen dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne de 2012. Là, il s'agit non seulement, c'est le même chef d'inculpation, enfin ou de mise en examen, d'un financement illégal de sa campagne de 2007, mais avec ce chef très singulier de recel de détournement de fonds publics libyens. C'est-à-dire, en réalité, pour parler clair, il est accusé, ou soupçonné plus exactement, pas accusé, d'avoir été financé par un État étranger, et pas n'importe lequel. La Libye. Et je pense que, alors on va explorer, j'imagine, tous les recoins ou
les tiroirs les dédales de cette affaire compliquée,
de cette affaire ahurissante. Mais je pense qu'il faut un tout petit peu se resituer, c'est la campagne de 2007, dans le contexte franco-libyen qui précède. La Libye, pour moi, c'est pas la France-Afrique. Il y a peut-être les mêmes intermédiaires, peut-être les mêmes valises de billets qui circulent. Ça n'est pas une ancienne colonie française. Il n'y a pas le cordon ombilical, militaire, monétaire, économique, etc. Il n'y a pas ce paternalisme intéressé. On est, depuis l'arrivée de Kadhafi au pouvoir en 69, dans une relation très compliquée qui est faite de moments de lune de miel, disons. Kadhafi est reçu en grande pompe par Pompidou en 73. Il rencontre Mitterrand pour régler les affaires du Tchad, en principe, en 85, en 84, en Crète. Et puis, ensuite, Kadhafi se met au banc de la communauté internationale. Les Américains, d'abord, le désignent comme le financeur de nombreux mouvements terroristes. Il réplique, entre guillemets, par quand même 2 attentats très spectaculaires. Il abat, fait abattre un avion de la Paname, 270 morts en 88, puis un avion d'UTA, un avion français, 170 morts en 89. Il est du coup soumis à un embargo très sévère de l'ONU. Et il se passe une chose essentielle en 2003, on saute, et on arrive très très près de l'avant-élection présidentielle. 2003, après la chute de Saddam Hussein, Kadhafi change complètement de stratégie. Non seulement il règle, il reconnaît sa responsabilité et indemnise les familles des victimes des 2 attentats d'avion, mais surtout, on est après le 11 septembre, et après la traque d'Al-Qaïda, ou pendant la traque d'Al-Qaïda, et il reconnaît publiquement, officiellement, s'être engagé dans des programmes de mise au point d'armes de destruction massive, chimique, nucléaire. il s'engage sous couvert et sous contrôle international à renoncer à tout ça. Et il le fait, c'est-à-dire que les inspecteurs de l'AIEA vont en Libye vérifient que toutes ces opérations, tous ces programmes sont démantelés. Et à partir de là, tout le monde se précipite à Tripoli. Blair, Berlusconi, Chirac lui-même, président de la République en 2005. Et à partir de là, la Libye devient non seulement un Eldorado pour les investisseurs, mais un partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Kadhafi est l'un des premiers à avoir apporté son soutien aux États-Unis après l'attentat. Et donc, les relations, notamment les relations entre les services secrets libyens et français, deviennent extrêmement étroites, avec les autres aussi, les Anglais et les Américains. Donc on est dans ce contexte de... Kadhafi est redevenu fréquentable.
Je reste sur l'idée que pour vous, ça n'a rien à voir avec la France-Afrique. Alors, ce n'est pas ce que pensait cette semaine l'Humanité. Daniel Cohen, il y a eu ce papier titré « Sarkozy, l'héritier de la France-Afrique », nous expliquant qu'il serait finalement, avec cette affaire, le dernier héritier connu des réseaux de financement occultes, dont s'est beaucoup servi d'ailleurs la droite française. Le papier rappelle Pascaline Bongo, la fille de l'ex-président gabonais au meeting de campagne de Sarkozy. Nous rappelle Robert Bourgi à la tête de la diplomatie parallèle mise en place par Sarkozy en Afrique dans la foulée de ce que faisait Chirac. Et du coup, pour l'Humanité, cette affaire de financement libyen serait à replacer dans ce contexte.
Dans le contexte plus général de la tentation qu'ont les présidents français, enfin les candidats français de droite, il faut quand même bien le dire, je crois, dans l'ensemble, à chercher des financements dans cette région du monde. Maintenant, ce que dit Gérard me paraît très convaincant. C'est tout de même une autre histoire à resituer dans un autre contexte, même si, dans le cas de Takieddine, c'est bien le même bonhomme qui était déjà, si je comprends bien, à l'origine du premier scandale de financement de la campagne de Balladur. Donc on a... En 95. Donc on est encore dans ces réseaux-là. Maintenant, pour parler du fond, je crois qu'on est tous sous le coup de la sidération devant cette affaire. C'est une monstruosité en réalité, parce que si c'est vrai comme si c'est faux, on est face à quelque chose de considérable. Si c'est vrai, c'est énorme. C'est énorme que non seulement un président de la République soit élu avec des financements occultes, on l'a déjà vu, mais que ce faisant, et par une série d'enchaînements et de circonstances qu'on a encore, je crois, du mal à comprendre, il se retrouve à faire la guerre à un pays, la Libye, qui, après la chute de Kadhafi, allait devenir une source de déstabilisation de la région absolument considérable. La pauvre Tunisie, tout juste affranchie de la dictature, en fait, s'est retrouvée presque immédiatement confrontée au chaos du pays avec laquelle elle a une immense frontière qui à un moment donné, en tout cas, n'en était plus une. Et tout le jeu aussi entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc., est très largement déterminé par ce chaos libyen. Donc on a
Mais c'est vrai qu'il y a une tentation de faire un saut d'apparence logique entre des financements occultes d'une campagne en 2007 et la décision de précipiter une guerre, en l'occurrence en Libye, 4 ans plus tard, et en même temps, c'est un saut dramatique.
Non, mais si c'était vrai, si c'était vrai que Sarkozy a été financé par la Libye, le fait que quelques mois plus tard, il décide de faire la guerre à la Libye, on est obligé de les mettre en vis-à-vis, et encore une fois, par une série d'enchaînements, de raisonnements, de circonstances qu'on ne comprend pas, mais on sera obligé de faire le lien. Maintenant, si c'est faux, c'est une monstruosité aussi, parce que c'est vrai, de ce point de vue-là, Sarkozy, dans son raisonnement, a raison de dire que ces affaires sortent entre les deux tours de la présidentielle, sortent au moment où lui-même est en train de chercher à retrouver le leadership de la droite à la veille des primaires. Donc là, ce serait un autre coup terrible.
Cette affaire, elle sort en deux temps, en réalité.
Oui, mais si c'est faux, c'est terrible. Si c'est vrai, c'est terrible aussi. Donc on est vraiment face à quelque chose où c'est pas moitié-moitié. Bon, alors maintenant, sur le fond, moi, ce que je pense en réalité, je crois comme la plupart des gens, c'est que à l'origine, le chiffre qui avait circulé de 50 millions destinés à la campagne est sans doute faux. 50 millions, c'est beaucoup d'argent, surtout si ça doit circuler en liquide. Là, on voit plutôt que les ordres de grandeur qui circulent. Alors, je suis dans la spéculation pure. Je vous restitue mon propre raisonnement, c'est plutôt 5 millions que 50 millions, ce qui est évidemment considérable, ne change absolument pas la nature du crime, mais du coup permet de retracer ce que l'on voit, c'est-à-dire une campagne de Sarkozy avec beaucoup de cash qui circule, l'ancien ministre de l'Intérieur, ancien directeur de cabinet qui a vécu avec 20 euros par mois pendant 10 ans, bon, donc manifestement il y avait d'autres sources de revenus,
Claude etc. Guéambre et Sortefeux qui apparaissent
donc,
dans ce dossier.
Donc toutes ces choses, je pense, dans ce contexte, redeviennent plus raisonnables. Encore une fois, on serait du côté du crime. Mais,
si, donc, si en c'était gros, ça, on se serait juste trompé sur les montants.
C'est l'intuition, enfin franchement je n'y connais absolument rien, mais c'est l'intuition que j'ai en voyant d'abord l'énormité du montant de 50 millions, même la difficulté physique en termes de mallette. En antenne, on a essayé de faire le calcul de savoir combien il fallait de mallette pour transporter 50 millions, ça serait beaucoup.
Vous n'avez pas trouvé.
Donc, on n'a pas exactement réussi à trouver, on y était presque quand l'émission a commencé, mais ça fait quand même beaucoup. Et par contre, 5 millions, on voit ces ordres de grandeur, ça explique la corruption ambiante de cet ancien ambassadeur Boyon, ancien conseiller de l'Élysée, qui se retrouve avec un sac où il y a 350 000 euros, Guéant qui a 500 000 euros qui circulent. On voit que là, on est dans des ordres de grandeur raisonnables. Encore une fois, ça ne change absolument rien à la nature du crime, mais ça explique peut-être la manière dont Sarkozy, la véhémence avec laquelle Sarkozy se défend, sait qu'il n'est pas coupable de ces ordres de grandeur-là.
Cette véhémence de l'ancien chef de l'État, jeudi soir sur TF1, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a que de la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance, la calomnie, je ferai triompher mon honneur. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette prestation, Elisabeth Roudinesco, comme commentaire?
Je trouve ce déni ou cette dénégation, on ne sait pas, calamiteuse. Pour lui, pour tout le monde, parce que de toute façon...
C'est la psychanalyste qui dit que Nicolas Sarkozy est dans le déni.
Bah, je ne sais pas. Ça peut être le déni, ça peut être la dénégation, ça peut être...
Ou ça peut être sa vérité, la vérité.
Peut-être. Mais je trouve que ce moyen de défense n'est pas... en dit long, quand même, sur l'idée de s'abstraire complètement de ce qu'il a fait. Parce que la question, que ce soit vrai ou faux, que ce soit établi ou pas, comme le disait très bien Daniel Cohen, c'est une catastrophe. C'est un désastre depuis le début. D'abord, parce qu'il a, quand il était au pouvoir, abaissé la fonction présidentielle en s'entourant de gens qui ressemblent, en tout cas dans ce récit qui est inouï, ça ressemble à un film d'Hitchcock ou à James Bond. Voilà. Pas du tout à John le Carré, plutôt au clinquant, à des espions, à des personnages même, je dirais, des Trois Mousquetaires, hein, avec le cardinal qui officie à l'Élysée. Enfin, on a l'impression qu'en démocratie, on est gouverné par une bande de mafieux. Bon. Avec quand même le signifiant argent en permanence, qui colle à la personnalité de Sarkozy. Il l'a assez dit. Et pour la France, c'est un vrai problème, je le répète, c'est cet abaissement de la fonction présidentielle. Inculture crasse, faut le dire, sans arrêt, une manière d'aller plutôt à Disneyland qu'au Louvre. Enfin, c'est, pour la France, c'est une image désastreuse. Sans compter l'espion là, l'espion celui qui meurt dans le Danube, tous ces personnages qu'on a envie de tourner le film, en quelque sorte. Puis sans compter Patrick Buisson derrière. Enfin, quand on regarde cette période, on est catastrophé. Et tout ça se termine quand même dans un bain de sang désastreux. D'abord, la réception de ce dictateur pathologique. Je suis pas contre qu'on ait des relations avec les dictateurs, mais pas comme ça. L'attente, les Amazones, la folie visible, recevoir un clown sanguinaire de cette façon-là, ça ne va pas. Et ensuite, cette intervention calamiteuse, avec la complicité d'ailleurs de Bernard-Henri Lévy. Tout ça, alors qu'on ne sait absolument pas ce qu'on va mettre ensuite. Hein. Au nom d'une défense de force démocratique, en réalité, on tue un dictateur, mais après, la situation est encore pire.
Alors, les avocats de Nicolas Sarkozy, vous direz qu'on n'est pas là aujourd'hui pour faire le procès du sarkozisme, mais pour évoquer cette affaire très précise, très complexe, même s'il est vrai que le président Sarkozy, l'ancien président, on parle également de lui pour d'autres affaires, il a toujours été présumé innocent et jamais condamné jusqu'à présent. Il y a eu ce non-lieu, évidemment, dans l'affaire Bettencourt. Il y a encore l'affaire Big Malion, renvoyée devant le tribunal pour financement illégal de sa campagne de 2012 à travers un système de fausses factures. Il y a l'affaire des écoutes, il y a l'affaire des sondages. Dominique Régnier, qu'est-ce que l'on se dit quand on voit cette accumulation?
Ah non, mais moi, je vais pas faire un jugement sur la personne comme ça, me lancer dans une évaluation de la valeur intime de l'individu quel qu'il soit. Je n'ai aucun titre pour ça.
Moi, je suis politologue, vous l'avez dit, hein, donc je peux, avec vous dans cette émission, émettre un point de vue, une opinion qui sera partagée ou pas par les auditeurs. Je peux faire valoir un argument qui sera jugé convaincant ou pas. Les auditeurs le décident. Je peux me référer à des faits que chacun peut vérifier pour savoir s'ils sont justes ou faux. Ils peuvent être faux, évidemment, et tout ça. Mais les jugements, comme ça, j'ai pas de titre pour le faire. Ce qui est frappant, c'est que le dossier est d'une complexité et d'une technicité bien légitime, d'ailleurs, ce sont des affaires sérieuses. Et donc, le politologue que je suis, qui n'est ni avocat, ni journaliste, en capacité d'avoir des informations particulières, mais comme tout le monde, je lis la presse, et pour le moment, moi j'attends voilà, que des personnes compétentes nous disent ce qui est vrai, ce qui est faux, démêlent ceci, et puis appliquent les règles qui sont prévues dans le droit français.
La question qu'on s'est posée à plusieurs reprises avec ce président-là, c'est quel est son rapport à la légalité et à l'argent ?
Oui, mais moi, je sais pas, c'est... Est-ce qu'il faut refaire comme ça l'histoire de tous les présidents pour les juger ou on le réserve à un ? Enfin, il y a eu beaucoup d'affaires. Il y a des gens qui se sont suicidés à l'Élysée. Enfin, on pourrait faire une série comme ça de... C'est bizarre. Enfin, il y a eu... Pourquoi tout d'un coup on va focaliser ? Moi, je ne préjuge pas ni positivement ni négativement. Il faudrait savoir quels sont les faits. Après, les gens ont des préférences. On voit bien. C'est un peu comme dans les affaires antérieures. Les personnes réagissent en fonction de préférences politiques. C'est naturel. En gros... Ceux qui n'aiment pas Sarkozy vont le trouver coupable, c'est évident. Et puis ceux qui l'aiment bien vont dire, moi je pense que je vais le présumer innocent. Mais cette présomption d'innocence, on la fera pas fonctionner pour une autre personne parce qu'on n'aura pas une sensibilité comparable. En fait, c'est les principes qu'on perd.
Vous assumez votre subjectivité, Elisabeth
Rudisco. Mais de manière générale,
et donc d'abandonner les principes
c'est
de la présomption d'innocence.
Que la politique soit tragique, qu'il y ait des suicides, des affaires, des services secrets, tout le monde le sait. Le problème là, avec Nicolas Sarkozy, et je suis d'accord avec vous, les présomptions d'innocence, on ne veut pas trancher sur les faits. C'est l'image qu'il a donnée, et tout le monde le sait, tout était dans une épouvantable visibilité. Son comportement, ses pathologies à lui. Non, ça a été, par rapport à tous les autres présidents, où, je le répète, il y a des histoires sombres, évidemment. Il n'y a qu'à lire Focard sur De Gaulle, il n'y a qu'à connaître la France-Afrique. Mais là, il faut quand même montrer, enfin, il faut bien dire qu'il y a eu une spécificité de Sarkozy. Peut-être qu'historiquement, on en était arrivé là. Mais il a abaissé réellement la fonction présidentielle.
Alors, Nicolas Sarkozy, qui avec d'ailleurs beaucoup de précision a démonté point par point chaque accusation qui lui était faite dans ce dossier libyen, Gérard Courtois, vous aussi, vous l'avez regardé comment, cette prestation du président ?
Je l'ai regardé comme un formidable avocat de lui-même, mais ça, c'est pas une surprise. Il en a déjà fait la démonstration. Non, si on reprend sa plaidoirie ou son argumentaire, il y a trois arguments, au fond, qu'il oppose au juge et à ceux qui l'accusent et aux médias, qui l'accusent d'acharnement au tribunal médiatique, comme disent ses amis. Il y a trois arguments. Un, il n'y a pas de preuve contre moi. Il n'y a pas de preuve sérieuse. C'est tout à fait plausible.
Oui.
C'est parfaitement plausible. Dans des affaires, appelons ça de corruption, active ou passive, il est rare qu'on laisse traîner des papiers. Il se trouve que là, il y a un document. Bon, on verra si ce document, il est contesté, considéré comme un faux par la défense de Nicolas Sarkozy. Il a été soumis à un collège d'experts qui ont considéré que c'était un document crédible et sérieux. Bon, mais globalement, même si, au-delà de ce document, si quiconque dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on sait que plusieurs de ses proches conseillers d'avant 2007, et qui le resteront après d'ailleurs, ou qui deviendront ministres, sont mis en cause également. Il s'agit de Claude Guéant et de Brice Hortefeux, qui ont fait des voyages à Tripoli, qui ont été en contact avec les principaux acteurs côté libyen de cette affaire. On n'imagine absolument pas que qui que ce soit dans l'équipe de Nicolas Sarkozy candidat ait avancé dans cette direction libyenne sans avoir son feu vert. Voilà, c'est parce que il était le patron, le chef, et il était le voilà le principal acteur, et personne n'aurait pu imaginer que ni Claude Guéant, ni Brice Hortefeux, ni qui que ce soit, n'avance dans cette direction sans son aval. Mais des preuves, c'est tout à fait autre chose. Mmh. Le deuxième argument, c'est les gens qui sont invoqués, qui sont les témoignages qui sont invoqués, c'est une bande d'assassins, d'escrocs et de mafieux. Alors là, il y a un tout petit problème. C'est peut-être vrai, moi j'en sais rien. Kadhafi était un dictateur implacable, il y en a mille preuves. Mais tous ces gens, cette bande de mafieux, d'escrocs et d'assassins, c'est, vous l'avez rappelé, des gens qui ont été accueillis en grande pompe, qui non seulement ont été des contacts réguliers dans les années qui précèdent, mais ont été accueillis en grande pompe en 2007 à Paris. Alors, il faudrait savoir, ils n'ont aucune crédibilité ou ils avaient à l'époque une crédibilité.
Alors, à l'époque, la diplomatie française de Nicolas Sarkozy disait qu'il y avait ce grand projet de l'union avec la Méditerranée, oui, et que c'est dans ce contexte-là qu'on avait restauré des relations avec la Libye et d'autres pays, d'ailleurs.
Formidable Eldorado pour les investisseurs et un partenaire potentiel, sérieux, non seulement sur les affaires de terrorisme, mais aussi déjà sur les affaires d'immigration. Venant d'Afrique noire. Et le troisième argument, qui est explicite ou latent, explicite en tout cas chez tous les amis de Nicolas Sarkozy, c'est pas possible. Vraiment, il y a un acharnement contre cet homme. Personne n'a jamais été aussi poursuivi que
mais
lui.
Parce quand Sarkozy le rappelle, il avait déjà été mis en examen dans l'affaire Bettencourt, suivi d'un non-lieu. Ouais. Donc la mise en examen ne vaut pas preuve de culpabilité.
Absolument, c'est évident. Mais la question, quand même, que ne peuvent pas ne pas se poser les Français, c'est s'il y a autant de mises en examen ou de mises en cause. Ça n'est pas tout à fait...
C'est le vieux dicton, il n'y a pas de fumée sans feu.
Ah oui, ça c'est affreux, parce que je me souviens, moi, et chacun s'en souvient, de Dominique Baudis, à qui on reprochait de transpirer à la télévision quand il s'expliquait pour se sortir d'une affaire qui n'existait pas.
Nicolas Sarkozy ne transpire pas.
Non, mais...
Totalement innocent, Dominique Baudis.
Mais c'est ce que je suis en train de dire, alors. C'est ce que je suis en train de dire. Et qui a été... qui en est probablement mort, d'ailleurs, parce que ça l'a dévoré littéralement. Il n'y a pas de fumée sans feu, on le pensait un peu à ce moment-là. Je ne fais pas la comparaison plus que ça. Mais Nicolas Sarkozy, c'est un ancien président. Je ne sais pas s'il veut à nouveau faire de la politique. Il n'est pas en fonction, il n'est pas en campagne. Ce serait quand même très très bien qu'on puisse avoir de la part de la justice, c'est sans doute compliqué d'avancer vite, hein, sur ces matières-là, mais des éléments probants. Dans ce que disait Gérard Courtois, moi j'apprécie un point particulier, c'est il y a un fait qu'on peut établir, c'est que Kadhafi était un dictateur. On a les éléments pour dire ça. Je veux dire, pour les non-spécialistes de corruption, etc.
Et qui a été reçu en ami par la France.
Mais qui a été reçu par la France. Alors là, on a déjà un problème, c'est au fond, moi je ne sais pas pourquoi on exclut certains dictateurs de ce jugement moral négatif et pas d'autres. On va recevoir, j'imagine, M. Erdogan. On va recevoir M. Xi Jinping. Il est président à vie. Et en Chine, vous ne pouvez pas faire un pas de côté sans vous retrouver en prison. On va recevoir M. Poutine, qui fait même empoisonner des opposants sur le sol de l'Union européenne. Ce jugement, c'est le fait d'être chef d'État. Vous recevez des personnes avec lesquelles vous devez discuter. Ce n'est pas un moment facile à passer. Vous le faites, c'est de la politique. Et c'est un peu contradictoire, juste sur le point de l'argumentation, c'est un peu contradictoire de reprocher de recevoir un dictateur et de reprocher de renverser un dictateur. Il faut trouver le point d'équilibre. La question qu'on peut se poser, et qui pourrait ressurgir comme une question de fond, sur laquelle nous, on pourrait avoir des choses à dire comme citoyens, c'est cette intervention en Libye. Là, on a des... Je veux dire, en tant que citoyen, on peut se renseigner et avoir un point de vue qui, moi, je le dis, pour moi, est moins indémêlable. Mais la justice va démêler cette affaire libyenne, c'est certain, et voir qui est coupable. Et s'il est coupable, bien évidemment, on espère la justice, elle le fera, condamnera. Mais savoir quelles sont les conséquences, pourquoi on a décidé cette intervention en Libye, quelles sont les conséquences. Et au fond, quelles conséquences se déroulent aujourd'hui encore et vont se dérouler demain de la chute de ce méchant Kadhafi qui rendait un immense service à l'Europe et à ses démocraties, qui était de la fonction de portier, c'est terrible à dire, mais c'est lui qui servait au fond de garde-barrière qui aujourd'hui, barrières ne sont plus défendues.
Donc l'affaire politique deviendrait davantage géopolitique, Elisabeth Roudinesco.
Oui, je voudrais juste revenir là-dessus. Il y a des manières de recevoir les dictateurs. Bien entendu qu'on est obligé de les recevoir, mais il y a des manières de le faire. Quand le président Macron reçoit Poutine à Versailles, il a parfaitement raison, il dit les choses. Il attaque Russia Today, il dit des choses. Si vous comparez, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Kadhafi a été reçu de façon insensée. On lui a accordé une importance. Il n'y a pas eu un mot, soi-disant, on parlait des droits de l'homme. C'est pas vrai. Quand on regarde les discours.
On a privatisé la rue de Rivoli pour Xi Jinping. L'a privatisée. Elle a été privatisée.
Peut-être. Mais que la politique oblige à ne pas être sans arrêt dans la morale, oui. Mais là, on a eu tout de même. Un quinquennat désastreux, voilà, c'est ce que je veux dire.
Un dernier mot, Daniel Cohen, sur comment cette affaire devient un spectacle, parce qu'il y a cette intervention de 20 minutes dans un 20h de TF1. C'est une stratégie, comment la qualifier cette stratégie, Nicolas Sarkozy, en allant sur un plateau?
C'est à proportion de tout ce qu'il y a d'extravagant dans ce dossier. On en a parlé à plein de moments, mais l'assassinat entre les deux tours de la présidentielle, de l'ancien ministre du pétrole, le corps retrouvé noyé, la noyade dans le Danube de cet ancien ministre, l'autre personnage qui a été exfiltré de Syrie, de Libye par l'ancien ambassadeur de France en Tunisie, Boyon, Bachir Saleh, qui a fait l'objet d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud où il avait trouvé refuge. Tout ça est incroyable. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est pas juste une valise qui a été prise. Cette affaire continue silencieusement. Il faut vraiment qu'on comprenne. Et juste pour conclure de toutes ces affaires, je pense qu'en effet, l'histoire on a absolument besoin de faire la vérité sur le lien entre ce dont on parle et l'opération militaire en Libye. Ça, c'est sans doute ce que l'histoire voudra savoir. Est-ce que c'est juste un hasard? C'est impossible de le penser. Est-ce qu'il y a un lien complexe qui nous échappe encore? Là, c'est l'histoire mondiale qui s'est écrite à ce moment-là à cause de ce scandale, s'il est avéré. Et donc, il y aura un devoir de vérité que les historiens auront à percer.
Un tout petit mot de conclusion, Gérard Courtois.
Une dimension qu'on n'a pas évoquée, mais qui, je pense, est quand même essentielle dans cette histoire, c'est que ça jette le soupçon sur tous les mécanismes de financement des campagnes électorales, voire de la vie politique. Il y a eu 3 lois, plus même, dans les années 90, et notamment en 95, qui théoriquement verrouillaient sérieusement et solidement le système. Système de financement public, hein, c'est l'argent des contribuables qui finance tout ça. Et à l'évidence, sur les campagnes de 2007 et de 2012, en tout cas, il semble que le système ait été contourné de manière plus ou moins importante. Et quand on parle de la défiance des citoyens à l'égard des responsables politiques, là, on est dans un facteur de défiance très profond et durable.
Ainsi s'achève notre esprit public de ce dimanche 25 mars. Merci à Luc-Jean Reynaud qui a réalisé cette émission, Charles Thibault et Céline Leclerc qui l'ont préparée, à la technique ce dimanche, Myriam Guillot. Tout de suite, c'est Alain Crugère, bien sûr, qui nous a concocté un déjeuner dominical préparé par un chef péruvien, Gaston Acurio, avec tout ce que nous devons aux Incas, les tomates, les fraises, le cacao, les cacahuètes, le piment, le poivron, les haricots, le quinoa et le lait de tigre. À table et à dimanche prochain.